au réseau Cogeco.
Vous écoutez Auto 360.
Auto 360.
Avec Daniel Boudreau.
Auto 360. Voici la chronique luxe, prestige et histoire avec Philippe Lagu.
Avec Philippe Lagu qui va nous parler de la lettre Z. Nous sommes pas dans un cours de français, mais il va nous parler de voitures, j'imagine. Nissan, Datsun, ça va jouer là-dedans. Salut Philippe.
Salut Daniel.
Ben oui.
La lettre Z, hein, on l'a dit tantôt, c'est probablement la plus importante dans l'histoire de la marque Nissan parce qu'elle est associée à une série de modèles, il faut le dire, hein, emblématiques de ce constructeur.
Absolument.
Mais si on commence par le commencement, avant la Z, il y a eu la Fairlady. Et avant Nissan, il ne faut pas l'oublier, tu l'as mentionné, il y a eu Datsun. Mm-hmm. Alors, si vous connaissez un petit peu l'automobile ou si vous avez un certain âge, comme moi, vous vous souvenez que les Nissan s'appelaient autrefois des Datsun. Le nom a d'ailleurs été utilisé en Amérique du Nord jusqu'au début des années 80, avant d'être remplacé par le nom de la compagnie mère, c'est-à-dire Nissan. Datsun, donc, fait son entrée en Amérique du Nord en 1958 avec la 310, qui s'appelle Bluebird au Japon. Et dès l'année suivante, en 1959, va commencer la série des Datsun Sports, des petites décapotables, deux places qui sont conçues pour concurrencer les roadsters anglais comme les MG et les Triumph, qui étaient très populaires à l'époque.
Oui.
Et la première des Datsun Sports, la S211, a un tout petit 4 cylindres de 1 litre. C'est vraiment un ballon d'essai parce qu'il y en a seulement 20 qui vont être construites. Ensuite, il y a les SPL 212 et 213 qui vont être les premières à être exportées aux États-Unis, mais encore là, les ventes vont rester marginales. Et fait à noter, hein, c'est avec ce modèle qu'apparaît pour la première fois le nom Fairlady, qui est inspiré de la célèbre comédie musicale de Broadway. La troisième fois, ben là, ça va être la bonne, avec la Fairlady SP310. Étrangement, le nom Fairlady n'est pas utilisé aux États-Unis et la petite décapotable va être vendue en Amérique sous le nom Datsun 1500. Et comme son nom l'indique, elle a un moteur de 1,5 litres et dans les années qui suivent, elle va changer de nom à chaque fois qu'on va augmenter la cylindrée pour devenir la Datsun 1600 puis la Datsun 2000. Et vous vous en doutez, la puissance va augmenter à chaque fois, elle aussi, de 85 à 133 chevaux. 133 chevaux, Daniel, pour l'époque, c'est pas rien.
Non, mais c'était petit, là. Oui, c'est pas gros.
Ben oui, et si vous regardez les photos que j'ai mises sur ma page Facebook, vous pouvez voir que cette petite décapotable ressemble beaucoup aux roadsters européens de l'époque, là. Il y a pas, ça fait pas japonais du tout, là. Et c'est donc dire qu'un quart de siècle avant la naissance de la Mazda Miata, il existait des roadsters japonais. Et pas seulement chez Datsun, Honda et Toyota en ont fabriqué, eux aussi, dans les années 60. Mais le point tournant, là, il va vraiment se produire, Daniel, en 1970, alors que le roadster Fairlady est remplacé par la Fairlady Z, un coupé dont le design a clairement été inspiré par la Jaguar Type E. Il y a d'ailleurs deux personnes qui en revendiquent la paternité, un célèbre designer allemand, Albrecht Goertz, et un designer japonais. Et ça n'a toujours pas été résolu, ce mystère. En Amérique du Nord, elle s'appelle 240Z et c'est la première de la glorieuse série des Z. Et ça va être un gros succès de vente dès le début parce qu'avec son 6 cylindres en ligne de 2,4 litres, c'est une voiture assez puissante, hein? 150 chevaux, tout de même, pour un poids qui dépasse à peine 1000 kilos. Capable donc de se mesurer à des sportives européennes là, comme Alfa Romeo, Jaguar, Porsche, ce qui donne une certaine aura à Datsun, hein, qui était une marque à connotation populaire. Et justement, la Z coûte moins cher que ses rivales européennes, à l'achat comme à l'entretien, parce qu'en plus, en bonne japonaise, elle est fiable. Et autre avantage, ben, les concessionnaires Datsun sont plus nombreux. On connaît la suite, la 240Z va devenir un classique, la première voiture japonaise qui mérite d'être considérée comme telle. Bon, là, évidemment, les puristes, puis j'en fais partie, vont dire que la Toyota 2000 GT est aussi une voiture de collection. C'est vrai qu'elle a été commercialisée 3 ans plus tôt que la 240Z, mais sa diffusion a été vraiment confidentielle, avec seulement 350 exemplaires produits. La Z, elle, c'est un succès là, sur toute la ligne, autant populaire que critique, hein? Parce qu'elle va être louangée par tous les journalistes automobiles de la planète. Par contre, les choses vont commencer à se gâter en 1974 avec des lois anti-pollution de plus en plus sévères aux États-Unis. La 240Z est rebaptisée 260Z parce qu'on a augmenté la cylindrée de son moteur, mais à cause de ces fameuses lois anti-pollution, il est moins puissant d'une dizaine de chevaux. Et il n'y a pas juste les lois anti-pollution qui sont de plus en plus sévères, hein? Les normes de sécurité aussi. Et c'est durant cette période qu'on va voir apparaître les butoirs en caoutchouc là, sur les pare-chocs. On va aussi ajouter une version 2+2, ce qui va alourdir la Z au propre comme au figuré, hein? Parce que esthétiquement, le résultat est, disons, discutable.
Exact.
Les gros pare-chocs absorbants vont apparaître en 1975 et cette même année, la cylindrée augmente encore à 2,8 litres. Et si vous avez deviné que la 260Z est rebaptisée 280Z, vous êtes vraiment fort. Alors là, en 1978, la 280Z devient la 280ZX et le changement ne se limite pas à l'ajout d'une lettre parce que c'est la première refonte complète de la Datsun Z. Et c'est aussi, à mon avis et celui de plusieurs, le début du déclin de ce modèle. Parce que la 280ZX, c'est une version alourdie, pataude de la première Z. Un petit peu, Daniel, comme un sex-symbole qui aurait pris une trentaine de livres, là.
Puis, tu nommes pas de nom, là?
Non, non, mais autant un sex-symbole masculin que féminin, je tiens à le préciser.
Okay.
On l'a carrément dénaturé, là. Pour la rendre à la fois plus confortable, plus silencieuse, plus luxueuse. Il y en a qui vont dire qu'on l'a américanisée. Oui, à l'époque, on pouvait dire ça. C'est aussi la dernière qui va être vendue sous le nom Datsun parce que sa remplaçante, la 300ZX, est introduite en 1984. Et dès l'année suivante, Nissan cesse d'utiliser le nom Datsun pour des raisons d'uniformisation, là, pour avoir le même nom sur tous les marchés. Alors, Nissan va essayer de revenir à l'essence de la Z en misant de nouveau sur la performance avec des nouveaux moteurs, en utilisant la suralimentation avec des turbocompresseurs sur les versions plus musclées. Mais le mal est fait et la 300ZX, la première du nom, ne passera pas à l'histoire. On sent aussi, hein, une certaine lassitude des acheteurs, comme c'est d'ailleurs le cas, faut pas l'oublier, pour la plupart des sportives à l'époque. La mode, là, ça existe dans l'industrie automobile aussi, hein. Puis vous savez que la mode, ça fluctue, ça va, ça vient. Et la plus belle preuve de ça, c'est que la 300ZX va connaître un sursaut et tout un avec la génération suivante là, qui va apparaître en 1990. J'irais jusqu'à dire que ce modèle va être la quintessence de la Z, celle qu'on appelle la Z32, le nom de code, là. Sur le plan du design, d'abord, Nissan a vraiment frappé un grand coup. La nouvelle 300ZX a l'air d'avoir été dessinée en Italie, tellement elle est belle. Autant le modèle précédent était devenu une caricature à l'intérieur comme à l'extérieur, autant le nouveau modèle, lui, a une gueule d'enfer. C'est la version Twin Turbo qui va marquer les esprits avec son V6 suralimenté, comme son nom l'indique, par deux turbos. Et ça, ça lui permet d'atteindre le chiffre magique des 300 chevaux. Et là, il faut se remettre dans le contexte, Daniel. Là. 300 chevaux en 1990, c'est beaucoup. En guise de comparaison, c'est la même puissance qu'une Ferrari 348. C'est une cinquantaine de chevaux de plus qu'une Porsche 911 et une Corvette. Puis la version de base avec son V6 atmosphérique n'est pas en reste, elle non plus, hein, 222 chevaux. Et cette quatrième génération va permettre à la 300ZX de se retirer en pleine gloire. Encore aujourd'hui, elle est considérée comme une des meilleures sportives japonaises de tous les temps. Et les 300ZX, là, codés Z32, sont très recherchés par les collectionneurs, surtout les Twin Turbo. Malgré toute leur qualité, la popularité des voitures sport commence à s'étioler dans les années 90. Alors, la Mazda RX-7 va disparaître, la Toyota Supra également. Et même si la 300ZX va être produite jusqu'en 2000, Nissan va cesser de la vendre en Amérique du Nord en 1996. Chose certaine, Daniel, ceux qui les ont gardées ont fait un très bon placement. Il faut juste voir comment elles se vendent aujourd'hui pour le réaliser. Et ainsi s'achève le premier chapitre de la Z. Mais l'histoire n'est pas encore terminée. Je vous en reparle dans le prochain blog parce qu'en plus, j'ai pu conduire tout récemment la 370Z, une voiture que tu connais très bien toi aussi, Daniel.
Absolument, pour l'avoir aussi mis à l'épreuve, cette voiture. J'ai bien hâte de voir si la tradition se poursuit et si une autre Z va faire l'histoire. On s'en parle plus tard. Merci, Philippe.
Salut, Daniel. À tantôt.
Bye-bye. Alors voilà, on s'arrête et on vous revient. Restez avec nous à Auto 360.
Auto 360. Avec Daniel Boudreau.
Avec Daniel Boudreau.
Petite pause. On revient ensuite. Restez là. Au réseau Cogeco. Auto 360.
Avec Daniel Boudreau.
L'automobile sous toutes ses soutures, ses coutures. C'est en tout cas.
Auto 360.
Auto 360, voici la chronique luxe, prestige et histoire avec Philippe Lagu.
Ben oui, nous sommes de retour à Auto 360. On va vous parler encore, évidemment, je veux vous entendre sur la sécurité et sur la technologie montée à bord de votre véhicule. Vous en pensez quoi? Comment vous vivez avec ça? Quelle est votre relation avec la sécurité montée à bord de votre auto? Dans un instant, mais là, Philippe nous a fait rêver avec l'histoire de la Z. Mais là, il en a conduit une. Il faut qu'il nous en parle, hein, Philippe?
Ben oui, parce qu'on s'est laissé dans le bloc précédent avec la mort, si on peut dire, de la 300ZX. Mais après un hiatus, une mise au rencard de 5 ans en Amérique du Nord, la Z va ressusciter à l'été 2012. La cinquième génération, qui porte le nom de code Z33, renoue avec son passé. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Elle renoue avec son passé dans l'esprit comme dans le design. Alors, on revient aux sources en s'inspirant de la Z originale. Et par rapport à la 300ZX qui l'a précédée, la 350Z a subi une cure minceur. Et si on regarde sa silhouette, on retrouve aussi les grandes lignes de la première Datsun 240Z avec le long capot, la partie arrière tronquée. Et après ça, ben la 370Z va prendre le relais de la 350Z en 2009. Et cette sixième génération respecte encore plus l'esprit des premières Z parce qu'elle est plus légère encore que la 350Z et, croyez-le ou non, moins chère. Pas énormément, mais tout de même.
Ouais,
un petit peu. Ça mérite d'autant plus d'être souligné que le prix est, règle générale, directement proportionnel à la puissance. Et dans le cas de la Z, c'est l'inverse qui s'est produit. Bon, c'est quand même pas rien.
C'est good, c'est bien.
Bon, alors parlons-en de la nouvelle. Vous pouvez la voir d'ailleurs sur mon site, là, www.philippelagu.com. Elle est en vedette, là, vraiment, sur la page d'accueil. Et vous pouvez le voir sur ma page Facebook également. Donc, les designers de Nissan, on le sait, ils sont capables du meilleur comme du pire. Et avec l'actuelle génération de la Z, ben là, faut le dire, ils ont vraiment frappé un coup de circuit. La preuve, c'est que la Z a presque 10 ans. Ce qui est le double de la durée de vie moyenne d'une génération dans l'industrie.
Et toujours moderne.
Oui, c'est
toujours moderne.
Fait pas son âge du tout. On n'a pas réinventé la roue non plus. Elle reprend les grandes lignes de la 350, mais elles sont plus sculptées, plus découpées. Il y a un faciès qui est plus agressif et la partie arrière qui est encore plus bombée et particulièrement réussie. Et j'ose le dire, cette voiture a un très beau derrière. Et surtout, on s'est bien gardé de ne pas enlaidir la carrosserie avec des excroissances, à part l'incontournable aileron arrière, là, qui est heureusement assez discret. Autrement dit, on n'a pas profané un chef-d'œuvre comme on l'avait fait là, avec les anciennes Pantera puis les Countach là, de ma jeunesse, là, où on leur mettait là, un paquet de ce qu'on appelait les body cladding sur le côté, puis les spoilers.
Toutes sortes de bébelles.
Ah, c'était épouvantable.
Des moulures de bas de caisse.
Épouvantable, ces autos-là ressemblaient à des Pontiacs. Là. Comme la Z originale, ben, la 370 est une biplace, mais contrairement à son ancêtre, elle peut se découvrir. Alors, vous aurez compris qu'on a le choix entre un coupé ou un cabriolet, et le cabriolet, je le précise, est à toit souple. Alors, si la carrosserie a très bien vieilli, l'habitacle, lui, commence à dater un peu, par exemple. En fait, c'est pas tant l'apparence ou la décoration qui pose problème, mais la qualité de certains matériaux. Il y a des plastiques durs à quelques endroits, il y en a même beaucoup. Et même si c'est une version de base là, que je conduisais, c'est quand même une voiture dont l'échelle de prix débute à 35 000 $ Mais le point faible, c'est l'insonorisation. Ça. Si vous aimez entendre ce que fait votre véhicule, ça, vous allez être servi parce que le grondement du moteur, les bruits de roulement sont
Ils
sont omniprésents.
Ils sont pas cachés.
Non, pas du tout. Et dans le cabriolet, ben, ça va, on peut être indulgent en raison du toit souple. Là. Mais dans le coupé, c'est un petit peu plus irritant. Là. Il y a des bons côtés aussi, même s'il n'a pas changé depuis 9 ans. Moi, j'aime beaucoup le tableau de bord avec son instrumentation qui est bien garnie, classique, et son gros contour en plein centre. Ça plante le décor, comme on dit, ça crée de l'ambiance. On est bel et bien dans une sportive. J'aime ça. Good. Les commandes sont simples, Ça, aujourd'hui, c'est pertinent d'en parler avec ton sujet du jour, ta question du jour. Les commandes sont simples, sont faciles à manipuler, puis c'est un des avantages d'être à bord d'une voiture dont la conception date un peu. Il n'y a rien de compliqué. C'est merveilleux. Alors, il y a des bons vieux commutateurs pour changer de poste de radio ou pour la climatisation, le chauffage. Je dis souvent aussi que l'ergonomie est une spécialité japonaise. Ben, la position de conduite est idéale. Et le douillet quinquagénaire que je suis en train de devenir a beaucoup aimé les sièges qui combinent le confort d'une voiture de luxe et le maintien d'un baquet de course. Alors là-dessus, là, c'est vraiment 10 sur 10. Non,
c'est impeccable.
Oui, oui, oui. Et si la 350Z a été rebaptisée 370Z, c'est à cause de l'augmentation de la cylindrée de son V6 qui est passée de 3,5 à 3,7 litres. La puissance a grimpé, elle aussi. On est passé de 306 à 332 chevaux. Et malgré son âge vénérable, le V6 résiste assez bien au temps lui aussi. Oui. Disons qu'il est en fin de développement, on le sent, là, mais il y a encore des beaux restes. Il y a toujours un petit creux qui persiste à bas régime. Et si on va dans les hauts régimes, il est un peu rugueux. Mais pour le reste, là, il n'y a vraiment rien à redire. Moi, j'aime sa grande plage d'utilisation. J'aime sa linéarité. Il répond instantanément. Puis il ne chante pas trop fort. C'est tout à fait tolérable. Puis il a une voix grave et un peu rauque. Ça aussi, j'aime ça. Et pour couronner le tout, il consomme de façon très raisonnable pour une sportive, évidemment. Là.
Si oui, vous lorsqu'on le conduit de façon raisonnable, il consomme
aussi,
raisonnablement.
Ça c'est bon de le mentionner. Mais bon, en même temps, il faut avoir des attentes réalistes. Là. Si vous pensez que ça consomme comme une Toyota Yaris, là, vous n'êtes pas à bonne adresse non plus. Là. Achetez pas une voiture
mais
de sport.
Philippe, un V6, là, je vais faire une petite parenthèse, mais un V6, ça va rester un V6, puis un V8, ça va rester un V8 dans une voiture purement sportive. Là, on essaie de nous envoyer vers les petites cylindrées turbo compressées qui font le travail, je suis correct. Mais un V6, ça va demeurer un V6, puis un V8, ça va demeurer un V8.
Je suis d'accord
pour les vrais puristes.
Non seulement je suis d'accord avec toi, Daniel, mais je suis d'accord à 150%. C'est-tu assez d'accord pour toi, ça?
C'est assez d'accord.
Bon, et puis on va rester justement dans les... Dans ce qui fait triper les puristes, là, la boîte manuelle qui a été améliorée est un petit peu moins récalcitrante qu'auparavant. Moi, j'aime beaucoup son guidage qui est très précis, sa course qui est très courte aussi. On offre également une boîte automatique avec un mode séquentiel puis des leviers de chaque côté du volant, mais moi, je reste fidèle à ma bonne vieille boîte mécanique. Désolé. Question de sensation, de symbiose, justement, avec la mécanique. Ceci étant dit, si vous achetez une voiture sport juste pour frimer, là, juste pour flasher, comme on dit en bon québécois, ben, je préfère vous avertir parce qu'avec la Z, vous allez souffrir un petit peu. C'est pas une sportive de salon et elle fait peu ou même pas de concessions. Le roulement est assez ferme. Vous allez ressentir chaque petite imperfection du revêtement. Par contre, c'est vraiment une athlète douée. Autant pour le sprint que pour le slalom. Tous les ingrédients sont là. Hein. La suspension est ferme, il n'y a pas de roulis du tout. La 370 repose aussi, il faut le dire, sur un très bon châssis. On le perçoit rapidement et sa direction rapide et ultra précise permet d'exploiter au maximum l'agilité de la Z qui réagit au quart de tour et qu'on peut placer là, dans les virages là, vraiment, vraiment comme on veut. Là. Et dans les virages, d'ailleurs, la motricité du train arrière fait jamais défaut. Hein. C'est sa mort. Et la caisse, elle, reste toujours bien neutre. La Z, en fait, semble construite toute d'un bloc. Et il faut le souligner, le cabriolet perd très peu de sa rigidité. Ça, c'est quand même pas rien. Absolument. Et à chaque fois que j'ai conduit une Z, ben, j'ai eu beaucoup de plaisir. Et ce que je peux dire en conclusion, c'est que c'est toujours le cas. Juste avant de terminer, je précise qu'il existe une version encore plus extrême, la Nismo. Le poids est réduit au minimum, ce qui entraîne l'élimination de quelques accessoires de luxe ou de confort. La puissance du V6 monte à 350 chevaux. Et attention, la suspension est encore plus ferme. Alors, avis aux intéressés, c'est une Z qui est montée pour la piste et sur la route. Là, vous allez vraiment souffrir. Au bout d'une semaine, j'ai eu ma dose et je pense que j'ai perdu encore plus de plombage que dans la Shelby.
Ah oui. Alors, mais c'est très près parce que moi, je l'ai baptisé la 370Z, la japonaise qui se prend pour une américaine ou qui se prend pour un muscle car.
Ben, c'est comme une mini Corvette.
C'est la plus américaine des japonaises.
Et ben, moi, ce que j'aime de la Z, c'est que c'est une voiture qui refuse de jouer la carte du compromis. L'agrément de conduite, c'est sa raison d'être. C'est un objet de plaisir et rien d'autre. On pourrait dire que c'est un peu anachronique aujourd'hui, mais pas tant que ça, parce que la Z, c'est quand même une sportive qui est de son temps, parce qu'elle consomme raisonnablement et elle brille par sa fiabilité. Et là, je t'ai interrompu, Daniel, vas-y.
Non, c'est correct. J'allais juste dire qu'au prix qu'il offre présentement, ben, ce véhicule-là, c'est une aubaine.
J'allais finir avec ça. Écoute, c'est notre véhicule d'essai, là, il coûtait exactement 33 998. 34 000. Wow. Et il n'y avait aucun accessoire en option dessus. Alors, comparé avec les rivales allemandes là, de puissance comparable, là, et écoute, tu peux avoir deux Porsche Cayman et demi à peu près pour le prix d'une 370Z. Là.
Et voilà.
On compare, il y en a qui vont dire, ben là, vous comparez des pommes avec des oranges. Pas tant que ça. Pas tant que ça. On parle quand même d'une sportive, d'une propulsion, deux places, ont plus de 300 chevaux, un V6. C'est quand même pas rien, là.
Qui est amusante à conduire.
Le mot est faible. Le mot est faible.
Merci beaucoup, Philippe.
Ça fait plaisir, Daniel.
Aïe, tu fais rêver les gens sur quel site, là? Parle-moi.
www.philippelagu.com où vous pouvez justement voir la Z qui est en vedette cette semaine.